Alors, je voudrais commencer avec une question. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé devant un choix particulièrement difficile à effectuer? Quand vous arrivez à la conviction que vous n'êtes pas assez pour accomplir une tâche pour la gloire de Dieu, qu'il y a besoin de nouveaux collaborateurs et que vous ne voyez pas du tout qui pourrait s'impliquer. Il y a trop à faire. Il y a trop de besoins. La moisson est grande, trop peu d'ouvriers. Comment remplir un tel vide? Comment choisir un nouveau collaborateur pour avancer ensemble dans les projets que Dieu a prévus pour nous? Voilà sans doute les questions que les 11 qui sont repartis à Jérusalem, après avoir vu Jésus monter aux cieux, ont dû se poser. Et pourtant, ils ont été encouragés à patienter jusqu'à l'accomplissement de la promesse que Jésus leur a faite avant de disparaître à leurs yeux. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire quand il nous manque des responsables, quand il y a trop à faire? Comment être certain d'avoir les bons critères pour faire un choix adapté, un choix qui soit adéquat? Croyez-moi, c'est pas simple. Dimanche passé, pour ceux qui étaient présents, Josué nous a rappelé notre rôle de témoin du Christ à partir des 14 versets du premier chapitre du livre des Actes. Un deuxième tome que Luc a écrit après avoir diffusé ce premier pour montrer que Jésus était au centre de l'histoire, pour montrer que son ministère avait été essentiel pour réconcilier les hommes avec Dieu. Nous étions 40 jours après la Pâque, après la mort et la résurrection de notre Seigneur, et voilà que Jésus disparaît, monte dans la gloire du Père. Il se retrouve seul, il regardait en l'air. Les anges leur ont dit, repartez à Jérusalem. Et les voilà qui repartent. Ils ne sont plus que 11. Et dans les versets 12 à 14 qui font la transition avec le texte que nous allons étudier ce matin, il y avait deux points essentiels à relever. Luc a nommé 11 apôtres qui avaient été choisis par Jésus, sans mentionner Judas qui est maintenant décédé. Et le deuxième élément, c'est que ces derniers étaient accompagnés de disciples de Christ, des frères de Jésus, de sa mère, et tous étaient rassemblés, unis dans la prière. Ils persévéraient dans la prière et dans l'attente de cette promesse. Tout ce qui va être décrit à la fin de ce chapitre se passe entre le 40e et le 50e jour qui suit la Pâque, le moment où la promesse va s'accomplir. Ils ne sont plus que 11 disciples, il en manque un. Un nouveau collaborateur doit être appelé au service. Voilà ce qui est essentiel et voilà ce qui va nous préoccuper tout au long de notre texte de ce matin. Et pourtant, les disciples ne vont pas se précipiter pour faire un choix. C'est pas anodin. Remplacer celui qui manque. Ou plutôt compenser parce que celui qui manque n'a pas forcément commis les actes les meilleurs. Et que font-ils? Ils cherchent la face de Dieu, dans la prière, tous ensemble. Ils sont unis dans cet engagement avant de prendre une quelconque décision. Un tel constat m'émerveille, parce que cela m'aide à prendre conscience que quand je prends des décisions qui ne m'engagent pas que moi seul, je dois prendre deux fois sinon trois fois plus de temps dans la prière. Décider dans l'urgence, c'est pas toujours la meilleure des choses. Parfois, on n'a pas le choix. Quand la santé vous arrête, quand le corps se manifeste, mais décider dans l'urgence, c'est pas bon parce qu'on prend pas le temps de rechercher la face de Dieu. Et les plus mauvaises décisions que j'ai prises, c'était toujours sous pression ou dans l'urgence. Alors lisons maintenant ce texte d'Actes 1, les versets 15 à 16. Et puisque nous ne sommes pas au Moyen-Âge, il y a aussi des Bibles qui peuvent être à votre disposition pour ceux qui n'en ont pas, qui voudraient suivre le texte directement. Alors, j'ai pas la page sous les yeux, mais vous trouverez facilement Actes chapitre 1, les versets 15 à 16. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Il dit, « Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture. Ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des nôtres, et il avait même part au ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime, et il y est tombé en avant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ce chant a été appelé dans leur langue « Akeldama », c'est-à-dire le chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc choisir parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous un homme. Depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné pour aller à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Un texte qui nous rappelle donc qu'un nouveau collaborateur doit être appelé pour compenser le manque. Dieu avait déjà prévu celui qui viendrait en renfort pour rejoindre l'équipe de ses envoyés comme témoins, les apôtres. Il y a dans ce récit que nous venons de lire ensemble trois idées forces. La première est déjà affichée. La mort de Judas suppose son remplacement. Mais tout cela répond à cette idée qu'il y a besoin d'un nouveau collaborateur pour cette équipe missionnaire. Donc après un temps de prière, l'apôtre Pierre, qu'on va voir un peu s'imposer comme le leader, le porte-parole des autres dans les 12 premiers chapitres des Actes, vient à expliquer à tous ceux qui étaient présents, les 10 autres, et puis vous faites le compte, il n'y avait pas loin de 120 personnes, que le traître doit être remplacé par un véritable collaborateur. Un collaborateur qui va les soutenir dans la réalisation des projets que Dieu a en réserve pour eux. Ils ne sont plus les 12 que Jésus a choisis. Ils sont 11. Mais alors, bon sang, pourquoi faut-il un 12e. N'aurait-il pas pu continuer à 11? Eh bien, si on fait le lien avec d'autres textes, et Jean Calvin le fait dans son commentaire du chapitre des Actes, on trouve en Matthieu 19, 28, un passage qui nous dit « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Quand Jésus a dit cela, je suppose qu'il avait bien en tête que Judas ne ferait pas partie des 12, mais qu'il y aurait quelqu'un pour le remplacer. Et ça, les apôtres qui étaient présents l'ont également vu. Pour que Jésus règne du haut des cieux, il fallait déjà qu'il soit monté. Et ça s'est passé après la mort de Judas. Ce qui n'était donc pas possible avant sa résurrection, tout ce qui a été annoncé là, quelque part en Matthieu 19, 28, va s'accomplir et doit s'accomplir. Voilà pourquoi il faut un remplacement. Alors Pierre va donner des détails sur la manière dont Judas est mort. Il n'y a qu'un autre texte des évangiles qui précise la mort de Judas. On le retrouve dans Matthieu chapitre 27 à partir du verset 3. Il est question effectivement de l'argent de la trahison, du prix du sang, mais l'évangile de Matthieu rapporte que Judas s'est pendu. Et là, Pierre nous dit que ses entrailles se sont répandues à terre. Étrange. Y aurait-il une contradiction ? Non, je ne pense pas. Rien n'empêche de supposer que les deux choses sont possibles. S'il s'est pendu et que la branche a cédé, je ne vous fais pas la suite de l'histoire, mais on peut tout à fait imaginer que le scénario que décrit Pierre est plausible. Une mort dans laquelle le corps s'est éventré, les viscères se sont répandus au sol. Judas n'a eu que des regrets. Il a regretté ce qu'il a fait. A-t-il sincèrement demandé pardon ? Je ne pense pas. Le regret a été fort. La repentance n'était pas là. Il n'a pas pu être restauré. Il n'a pas pu être réhabilité. Et les choses étaient sans doute tellement douloureuses qu'il a préféré en finir. Et donc le sang a coulé, le sien effectivement, mais aussi celui de Jésus. Et quelque part, si le champ dans lequel ces événements se sont produits est appelé le champ du sang, il peut être fait allusion à ces deux sangs, à la fois au sang du traître, mais aussi au sang du Sauveur et Seigneur qui est venu jusqu'à nous, qui a donné sa vie pour nous, et qui est bien plus important. Alors vous voyez, il est parfois facile de trouver des contradictions qui ne sont qu'apparentes dans la Bible. Combien c'est important pour nous de lever ces contradictions, d'y réfléchir et d'être au clair. Parce que si on dit que la Bible est contradictoire et pleine d'erreurs, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'un sauveur. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de repentance. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous d'être au clair sur le fait que non, il n'y a pas de contradiction dans la Bible ou elles ne sont qu'apparentes. D'où le fait d'être au clair sur le contexte dans lequel ces textes ont été écrits parce que c'est ce qui nous aide à le comprendre. Dans le verset 18, il est dit effectivement que Judas a acheté le champ, alors que dans le texte de Matthieu, il est dit que ce sont les prêtres qui, devant le refus de remettre cet argent dans le trésor du temple, en raison du sang qui a coulé, ont acheté ce champ. Peu importe qui l'a acheté, c'est le champ où le sang a coulé, c'est le champ où Judas est mort et où son sang a aussi coulé. Judas a eu des remords, il a peut-être exprimé des regrets, mais cela n'a pas suffi. La repentance suppose un pas de plus, qui se manifeste par cette volonté de reconnaître ses torts et cette volonté de ne plus recommencer, et de demander toute l'aide de Dieu pour agir différemment. Malheureusement, Judas n'a pas été au bout de cette démarche. Alors comment vivre avec un tel fardeau sur les épaules, eh bien, c'était plus possible. Et voilà pourquoi il a accompli ce geste si désespéré. Mais Pierre n'en reste pas là. Il poursuit son discours et il souligne que la Bible mentionne l'importance de ce remplacement. Il va s'appuyer sur deux textes des psaumes pour expliquer cette conviction. Tout d'abord, Pierre cite le psaume 69, verset 26, qui concerne le jugement sur la maison de celui qui s'est déclaré ennemi de Dieu. En effet, c'est au verset 23 que ce jugement est prononcé, que plus personne n'occupe sa maison. Mais Pierre n'en reste pas là, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait rester à 11. Il va plus loin, il cite également le psaume 109, un passage de la plume de David qui nous dit la chose suivante. « Dieu que je célèbre, ne te tais pas, car le méchant et le trompeur ouvrent la bouche contre moi. Ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'enveloppent de discours haineux, ils me font la guerre sans raison, alors que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière, ils me rendent le mal pour le bien et la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché, que sa vie dure peu longtemps et qu'un autre prenne sa charge. » Donc l'impie peut être remplacé par un bon. Voilà ce que nous dit le psaume, mais voilà ce que comprend Pierre. Et il est en train de dire que pour la charge d'apôtre, il faut un 12e collaborateur. Donc ces deux passages nous donnent un éclairage très particulier à l'intervention de Pierre. Et il va même donner les caractéristiques de ce que doit être un apôtre. Alors le récit de Luc ne développe pas, certes, mais le nouvel apôtre doit faire partie des personnes qui ont vu Jésus, qui ont suivi les douze et le maître dans son ministère terrestre et qui sont témoins de sa résurrection. Un apôtre n'est donc pas n'importe qui. Être présent dès le début, même si il n'avait pas forcément été choisi directement par Jésus comme les douze autres. Donc ce n'est pas n'importe lequel des disciples. Il a assisté au ministère public de Jésus. Il peut attester que la résurrection du maître est un fait réel. Ça, c'est important. Il n'y a que deux hommes qui correspondent au choix. Et l'un d'entre eux va être retenu pour être appelé à son service. Pourtant, il m'est déjà arrivé d'entendre des personnes réfléchissant à ce passage-là dire « Oui, mais vous savez, Matthias, on en parle là, et puis après, plus rien. » Donc, c'est pas un apôtre. En fait, le vrai 12e, c'est Paul. Ah, je suis pas sûr qu'on puisse dire ça comme ça. Parce que, certes, Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul, aura une fonction d'apôtre, mais il aura bien d'autres fonctions que celles que les 12 sont appelés à rendre. Paul était réellement témoin de Christ. Il a eu certes une vision du Christ ressuscité et glorifié, mais justement, il n'a pas été présent dans les débuts du ministère de Jésus. Et donc, il ne répond pas aux caractéristiques énoncées par Pierre. Et en plus, pour l'instant, Paul, il est plutôt, j'allais dire, un leader qui va s'opposer farouchement au développement de l'Église à partir du moment où elle va démarrer. C'est un bon juif, mais ce n'est pas du tout quelqu'un qui reconnaîtrait que Jésus est le Messie à ce stade de l'histoire. Une donnée qui est importante aussi quand on étudie le livre des Actes, c'est de voir que le temps, on ne le voit pas passer. Et il y a beaucoup, beaucoup de temps qui se découle, parfois d'un chapitre à l'autre et du chapitre 1 jusqu'au chapitre 28. L'apôtre Paul a été choisi par le Seigneur, mais avec une autre mission. Donc les deux hommes, Matthias et Joseph, le moment est venu de faire le choix. Et pour que ce nouveau collaborateur appelé au service se mette en marche, il est important, après ce temps passé par les disciples, unis dans la prière, après avoir regardé les textes bibliques, d'agir selon ce que la parole Dieu les invite à faire, et trouver donc le remplaçant qui s'impose. Ils ne peuvent pas rester 11, un nouveau collaborateur doit être appelé au service. Et voilà que tombe le choix de Matthias. Ils ont donc prié, regardé les Écritures, et ils décident de tirer au sort. Est-ce que c'est une méthode qu'on ferait encore aujourd'hui? Je ne suis pas convaincu que ce serait la bonne idée. Alors, pourquoi? Parce qu'après tout, là, ça a marché. Mais n'oublions pas qu'acte 1 se situe avant acte 2. Oui, je sais, c'est facile. Mais en acte 2, il y a quand même un tournant dans la vie chrétienne. C'est la venue du Saint-Esprit qui vient habiter dans le cœur des croyants. Et ça change beaucoup la donne. Parce que nous pouvons avoir une conduite directe par le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ce que dit l'Écriture, qui nous incite à prier, qui renouvelle notre foi et qui nous permet d'avoir une unité de vision. C'est vrai que c'est dans Acte 2 que l'on voit s'accomplir cette prophétie de Jérémie qui souligne que la loi de Dieu va être gravée dans les cœurs, que les hommes et les femmes connaîtront personnellement Dieu et le message du salut. Donc, du coup, comment être certain de faire le bon choix? Certes, les disciples ont prié, ils sont arrivés à une conviction que l'Esprit leur donnait, il faut quelqu'un, mais qui? Pour l'instant, on ne voit pas. Alors, on va faire comme on a toujours fait. Et quelle était la méthode dans le régime de l'Ancienne Alliance? L'Oumim et le Tourim, et donc le tirage au sort. Voilà pourquoi. C'est ce que les prêtres faisaient. Il y a quelques notions dans l'Ancien Testament qui nous parlent du tirage au sort. Lévitique 16:8, en effet, nous parle du bouc émissaire qui va être le bouc qui va être sacrifié pour porter le péché du peuple. Mais là, il n'y a plus besoin de bouc pour porter le péché du peuple. Jésus l'a fait à notre place. Et puis nous avons aussi Nombre 26:55 qui nous indique qu'au moment où le peuple va procéder à la conquête du pays, que le choix des territoires attribués aux différentes tribus se fera par tirage au sort. Mais Proverbe 16:33 souligne le caractère discutable du tirage au sort. Autrement dit, ça ne marche pas à tous les coups et ce n'est pas pertinent à tous les coups. Pourtant, Matthias a été choisi de cette manière. De même, effectivement, on voit le prêtre Zacharie en Luc 1:9 qui avait été choisi aussi par tirage au sort. Donc il y a quelques exemples qui montrent que ça a peut-être bien marché. Mais le tirage au sort est plutôt une pratique exceptionnelle liée à des circonstances particulières. Et donc, c'est important de souligner que cette pratique va complètement disparaître après l'envoi de l'Esprit à la Pentecôte. On le verra un peu plus tard, parce qu'il y aura de nouveaux collaborateurs qui vont être appelés à la tâche, en acte 6, et là, plus question de tirage au sort. Ces collaborateurs auront mission d'assister les apôtres dans leur charge face au défi de la croissance d'Église. On y reviendra. Et de même, lorsque Paul va débuter le premier voyage missionnaire avec Barnabas, lorsqu'ils seront envoyés depuis l'Église d'Antioche de Syrie comme missionnaires pour le premier voyage, il n'y aura pas de tirage au sort. C'est l'Esprit qui dira aux anciens, les deux là, vous me les mettez à part, vous priez, et ils partent en mission. Donc, le choix d'un nouveau collaborateur appelé au service est une nécessité. un point qui a été orchestré par Dieu pour répondre aux besoins de son peuple. Tout part de là. Les apôtres constituent une équipe avec des personnes aux qualités diverses, aux dons différents, qui sont au service d'un même maître et seigneur. Et un des points qui m'émerveille souvent quand je pense au choix de personnes qualifiées par Dieu, c'est que je me dis, si on devait choisir selon des critères humains, selon des profils psychologiques, et je suis bien placé pour le savoir, les candidats, ils seraient sans doute pas retenus. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas assez ci, parce qu'ils n'ont pas tel ou tel caractère, etc. Parce qu'en tant qu'homme, on regarde à l'apparence des choses. On regarde en premier lieu à la compétence. Et on s'en fiche de quoi ? Du caractère. Dieu ne choisit pas des hommes et des femmes selon leurs prétendues compétences. J'ai constaté qu'il a toujours choisi des incompétents notoires ou des inaptes sévères pour les rendre lui-même compétents. Parce que si vous êtes compétent et parfait, vous n'avez pas besoin de Dieu. Mais si vous savez que vous êtes incompétent, vous criez au secours et Dieu vient à votre secours. Le caractère prime sur la compétence. Et c'est tellement important de le savoir. Il y a une dizaine de jours, j'ai eu le privilège d'animer un des tout premiers créneaux de notre nuit de prière. Et un des points qui m'a beaucoup touché, c'est que nous étions invités, pour les personnes qui étaient présentes sur ce créneau-là, à prier pour les anciens. C'était comme ça que les sujets prières étaient répartis. Quel encouragement! Alors, ils ne sont pas tous là aujourd'hui, mais pour moi, je leur ai déjà dit et je vous le redis devant vous. Quel encouragement de voir qu'il y avait beaucoup d'humilité qui s'exprimait de la part de chacun. Il y avait un souci d'être des serviteurs dans l'église, dans leur foyer, auprès de leurs épouses, auprès des enfants que Dieu leur a confiés. Ça m'a beaucoup ému et encouragé. Et de me dire, waouh, merci Seigneur. De beaux collaborateurs que Dieu qualifie pour son service. Les difficultés de la vie, les tensions, les épreuves et les soucis que peuvent vivre les uns ou les autres sont parfois là aussi pour assouplir notre caractère et nous permettre de voir les choses autrement en comptant sur l'aide de Dieu. Ma prière, c'est donc que Dieu nous aide chacun à être prêt à répondre à l'appel qu'il nous adresse. Pour cela, une seule chose, être connecté en permanence avec lui. Dépendre de lui à chaque instant de chaque jour. Accepter de se laisser interpeller, remettre en question parce qu'on n'est pas parfait, de loin pas. On a tous encore beaucoup à apprendre. Et puis, une autre chose qui est importante à dire, c'est que même si vous avez une personne qui a beaucoup de compétences et en est reconnaissant quand elle en a, la direction d'église, c'est un travail d'équipe. Où les dons des uns et des autres sont là pour l'utilité commune. C'est ce que dira un peu plus tard Paul aux Corinthiens, que les dons sont là pour l'utilité commune. Et il n'y a pas tous les dons sur une seule et même personne. Dieu merci. Ça nous préserve de l'orgueil. En conclusion, je voudrais simplement souligner que nous pouvons être émerveillés de l'action de Dieu. Il nous demande d'être ses témoins, nous ses disciples. Il nous qualifie par l'envoi du Saint-Esprit qui va donner une capacité d'agir de manière différente. Ça, on le verra dans la suite du récit des Actes. Pour l'instant, on n'est que dans la perspective de la promesse. Mais la Bible est cohérente. Jésus s'est choisi 12 apôtres pour prolonger son ministère. Pas 11, 12. Et le choix de Judas n'était pas une erreur. Il avait son rôle à jouer. Pierre l'a rappelé. Mais il faut que quelqu'un le remplace. Et c'est maintenant fait. Quand une personne manque à l'appel, Judas le traître qui s'est donné la mort et a connu une fin tragique doit être remplacé. Un nouveau collaborateur est appelé au service par Dieu. Alors, dans la prière, la compréhension des prophéties bibliques, Pierre a la conviction que le temps est venu de confier la charge à un nouveau collaborateur. Il rappelle les qualifications de l'apostolat. Matthias est choisi et vient répondre à cet appel. Derrière le tirage au sort qui leur a semblé la meilleure méthode, Dieu a agi pour choisir le remplaçant de Judas. Les 12 peuvent donc continuer à persévérer dans la communion, la prière et l'enseignement en attendant que s'accomplisse la promesse de la venue du Saint-Esprit. Dieu ne choisit pas des hommes isolés pour faire son travail. Il choisit des hommes aux qualifications différentes, mais avec un caractère transformé pour que les uns, les autres vivent la richesse et la force de ce travail en équipe. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce constat, mais dans les mandats de direction que Dieu a confiés à son peuple dans l'Ancienne Alliance, il y en avait essentiellement trois qu'on retient, prophète, prêtre et roi. La prêtrise et la prophétie sont parfois associées. Pensez à Ézéchiel. La prophétie et la royauté sont parfois associées. Pensez à David. Mais jamais les trois. Le seul qui a voulu exercer les trois, être prêtre, prophète et roi, c'est Saül. Et malheureusement, ça lui a coûté la royauté. Dieu qualifie des personnes pour vivre la richesse d'un travail en équipe qui partage les compétences. Si selon certains, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, la sagesse veut que les pouvoirs soient partagés au sein d'une même équipe de responsables. Les compétences ne reposent jamais sur une seule et même personne, mais sur un groupe de personnes dont Dieu transforme le caractère. Seul Christ a été prêtre, prophète et roi. Et aujourd'hui, il nous qualifie pour poursuivre son mandat. Alors, que Dieu nous aide à nous engager à sa suite, et ce, pour sa seule gloire. Amen.